Salut et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on réalise notre cinquième émission dans un mois qui compte 4 semaines et on parle d'une malédiction dans l'entourage de Jeanne d'Arc. Une journée assez banale, en quelque sorte.
Ça, c'est fort, ça.
Pour terminer notre mois très spécial consacré aux premières fois du cinéma avec donc 5 émissions, on parle de La Malédiction des Dunois cette semaine, une comédie policière de Patrice Blanchard où une bande de policiers va décider de se dépatouiller avec un manuscrit du 15e siècle qui remonte jusqu'à Jeanne d'Arc. Et ça, je vous assure, quand vous n'avez pas fini votre café, c'est pas forcément une journée très 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 facile au poste de police.
Je suis très ému.
Mon film préféré qui ouvre l'émission toutes les semaines, cette semaine, c'est Romuald Ludovic qui nous parle de Retour vers le futur. Et juste après, on retrouve toute l'équipe du film de La Malédiction avec votre serviteur, Romaric et Thomas.
C'est pas parce qu'on a un gros PEL qu'on va se faire accepter comme ça du jour au lendemain.
En plus, il faisait hyper hyper beau. Ça, c'est vrai que c'était un petit plus. Qu'est-ce qu'il y a, je vois sur ma fiche là. Le film y sort le 25 octobre à Beaugency et le 26 au Carme pour une semaine d'exploitation. Je sais pas si je l'ai dit, ça a dû être enregistré, je pense. Ah, parce qu'en fait, là, quand le voyant est vert, c'est que ça enregistre. Mais qu'est-ce que j'ai fait depuis le début de la saison, en fait ?
Ben, moi, je m'appelle Romuald, j'ai 25 ans, je suis vidéaste, donc je m'intéresse beaucoup au cinéma, voilà. Et mon film préféré, c'est Retour vers le futur. De Robert Zemeckis, si je dis pas de bêtises. Ce film-là, il m'a vraiment marqué parce que bah, déjà, c'est un peu mon enfance. Il passait tous les Noëls à la télé. Et ce qui est fou avec ce film, ce que j'ai kiffé, c'est qu'à chaque Noël, quand je rentrais de vacances, et bah, c'était une redécouverte à chaque fois parce que je grandissais. Tu vois, j'étais jeune, donc je comprenais pas tout. Je grandissais et à chaque fois, je redécouvrais. Et le synopsis est fou en fait. Le synopsis est fou. Tout ce concept-là de retour vers le futur par rapport au voyage dans le temps et tout, c'est fou. j'ai pas réussi à,
oui, c'est ça.
À faire un truc de fou.
Mais... Non, mais c'est très bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Romuald.
Bah, de rien. Avec plaisir.
Hé, hey, c'est quoi le texte ?
Comment on dit déjà ?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir ?
Laisse tomber.
Graffiti Cinéma.
Tcha ! Graffiti Cinéma.
Monestier est assassiné hier soir.
D'accord, c'est ton enquête ? Mais sérieux,
tu changes de casquette et tu reprends ton rôle d'inspecteur.
Ah ouais, et sur ce coup-là, je suis inspecteur principal, alors c'est plus une casquette, c'est un sombrero.
Léonard Monessier, la cinquantaine, poignardé d'une façon barbare.
Ah, mais c'est dégueulasse.
Ouais.
Je les ai vus, les voiles, je les ai vus quand même, je suis pas folle.
Les quatre parties seront bientôt réunies.
On peut pas tuer quelqu'un pour un morceau de parchemin.
Donnez-moi votre téléphone.
Je vais plutôt vous laisser ma carte. Si je vous donne mon téléphone, vous pourrez pas m'appeler.
Ça se demandait si t'es pas meilleur humoriste qu'inspecteur.
On se retrouve avec un deuxième corps sur les bras et vous, vous faites les guignols sur la scène du crime.
Bonjour monsieur Barnier, capitaine Juve, gendarmerie nationale, est-ce qu'on peut entrer ?
Les flics sortent de chez moi.
J'ai des nouvelles toutes fraîches sur la bague. Elle appartient à un dénommé Victor Leroy.
Bah oui, c'est la mienne. Vous l'avez trouvée où ?
Ne vous inquiétez pas, patron, vous l'aurez, votre retraite anticipée.
Le moindre indice peut être important.
Je pense qu'il va être temps de leur dire pour nous deux.
Tu fais comme tu veux.
Elle est pas mal, celle-là.
Les êtres du passé n'aiment pas à être trop dérangés.
On dirait que l'assassin a pris son pieu.
Il est un peu con, capitaine, non ?
Oui, je suis très heureux d'être avec mes petits camarades de jeu qui sont présents ici aujourd'hui.
Tu sais quoi, je vais faire ça parce que je suis capable d'oublier leur nom.
Regarde, c'est Grimty.
C'est pour ça que j'ai beaucoup de fiches, moi.
Ah non, attends, y a pas les noms. Alors,
si jamais j'écorche des noms, vous n'en voulez pas, c'est parce que la fiche, les noms sont trop petits.
Mais là, ça enregistre, en fait.
Alors on est réunis à la taverne à Orléans. Alors pourquoi ? Pour une très bonne raison, non pas seulement pour boire de l'alcool, mais également pour parler d'un très bon film qui est tourné en région. Alors dans le mois c'est de septembre qu'on consacre aux premières fois du cinéma, on avait envie de mettre un gros coup de projecteur sur La Malédiction des Dunois de Patrice Blanchard. Alors on va tout de suite te dire bonjour Patrice, et on va évidemment saluer au fur et à mesure l'ensemble du casting, parce que là on va résumer, hein, ils sont tous autour de la table, il y a à peu près 150 personnes, et évidemment on a une bonne très large partie du casting. Oui. On est très heureux en tout cas de vous avoir tous. Bonsoir Patrice, et merci pour d'avoir invité tout ce bon monde dans votre compagnie.
Eh ben, bonjour à toi, merci de nous accueillir. Mais commence pas à dire des mensonges, commence pas à dire qu'on est 150. On a pris la crème de la crème dans l'équipe du film. Est-ce que je te les présente ?
Eh bien, avec grand plaisir. Alors, parce qu'après, évidemment, on pitchera le film, mais La Malédiction des Dunois, c'est aussi une belle aventure collective, donc on commence présenter le casting.
Alors, je vais commencer, honneur aux dames, je vais commencer par notre amie Paula D'Artigue. Qui est autour de cette table. Bonjour Paula. À côté de Paula, mon ami.
Ça commence bien. Ça, je le couperai pas au montage.
Non, mais ça affreux, je perds la tête. Alex Ramos.
Bonjour.
Bonjour. C'est l'émotion, certainement, oui, on va dire ça. Oui, juste à côté de moi, Quentin Delépine. Voilà. De l'autre côté, à côté de moi, nous avons Virgile Franet.
Bonjour.
Et pour terminer, aujourd'hui, nous avons
Victor
Leroy.
Bonjour à tous.
C'est quand même moi qui est censé connaître le prénom le moins, en fait.
Mais c'est affreux.
Thomas, il est avec moi. Salut Thomas.
Bah salut.
Et on va commencer. Patrice, est-ce que tu te rappelles du pitch de ton film ?
C'est parce que je me rappelle du pitch.
Alors évidemment, à ce stade-là, on a entendu la bande-annonce juste avant l'émission.
Ouais,
comment on présente La Malédiction des Dunois en quelques phrases ? Parce que c'est vrai que c'est très important de bien le cerner tout de suite.
Alors La Malédiction des Dunois, le pitch du film, il y a eu un meurtre sous le clocher Saint-Firmin à Beaugency. Et du coup, il y a un capitaine de gendarmerie un peu rigolo qui est nommé pour mener l'enquête. À ses côtés, il y a son chef, le commissaire Pivert. Sa collègue de bureau, la petite Juliette, et une autre collègue qui s'appelle Isabelle Jambier. Voilà, à tous les quatre, ils vont mener l'enquête et ils vont se rendre compte qu'au fil du temps, que cette histoire n'est pas très claire, qu'il y a peut-être bien une secte derrière tout ça et qu'il y a un parchemin qui daterait de l'époque de Jeanne d'Arc, qui a apparemment refait surface. Et voilà, ils vont essayer d'éclaircir un peu tout ça à travers plusieurs meurtres qui vont être commis dans le film.
Oui, c'est vrai que c'est une semaine assez chargée, hein, pour tous les personnages. On le découvre d'ailleurs dans le film. Et c'est vrai que c'est très intéressant de voir que ce film qui est produit donc en région et à Orléans, pour nous, c'est une première fois, parce que c'est quasiment la première fois. On a cherché dans l'histoire, pas très longtemps, parce qu'on n'avait pas non plus deux ans devant nous. C'est la première fois qu'un film est intégralement tourné dans l'Orléanais, quoi.
Alors je vais te dire pourquoi. C'est tout simplement parce que j'habite à Beaugency.
Ça aide.
Que Beaugency est une jolie petite ville, et que j'avais envie de mettre le patrimoine de la ville en avant. Et c'est comme ça que j'ai écrit l'histoire autour de la ville. J'ai fouillé un petit peu dans ce qui s'y était passé. Et voilà, en mélangeant l'histoire du carillon de Vendôme qui sonne à Beaugency, et puis une histoire que j'ai retrouvée, une histoire authentique qui mêlait Dunois et Georges de la Trémoille à l'époque de Jeanne d'Arc. Je suis parti d'un fait réel et j'ai brodé tout autour. Voilà.
Alors on va parcourir avec les comédiens autour de nous, évidemment, tous les personnages et l'importance de bien dévoiler le scénario sans trop en dire, parce que c'est quand même une enquête, donc on va pas non plus dévoiler trop de choses. Moi, je voudrais commencer par l'écriture, justement, parce que là, on a les comédiens autour de nous. Ce qui est très important dans cette enquête-là, il faut tout de suite le dire aux auditeurs, c'est une vraie comédie d'enquête, une vraie comédie policière, et on prend vraiment un plaisir à entendre le texte que tu as écrit pendant de longues années.
Alors, je tiens à préciser que oui, effectivement, je suis à l'origine du scénario, c'est moi qui ai écrit les grandes lignes, mais j'ai à côté de moi les deux adaptateurs qui ont fait un travail formidable.
Et on va leur tendre le micro.
Ouais. Voilà. Quentin et Alex qui ont apporté leur petite touche personnelle aussi au scénario. Alex y a mis surtout beaucoup d'humour. Il a apporté une bonne partie de toutes les vannes du film. Et ça a été un vrai bonheur de travailler avec eux deux aussi en plus.
Oui, alors justement,
voilà, donc, Alex.
Alex et Quentin, comment on arrive à apporter des dialogues à une structure comme ça qui est très connue, qui est très codifiée dans le cinéma, et à apporter cette dose qui va justement faire l'identité très piquante de la Malédiction des Dunois? Comment vous êtes positionné là-dessus?
Eh ben on a travaillé ensemble déjà. Le fait d'avoir trois cerveaux qui réfléchissent, ça aide vraiment. Et puis d'une part, effectivement, sur la structure, et puis d'autre part, sur la comédie, on s'est basé vraiment sur la première version du scénario de Patoche et sur les germes comiques qu'il y avait dedans. Et puis on a réfléchi sur telle scène comment la rendre plus drôle dans l'essence de la scène, avec parfois du comique de situation, et puis parfois telle autre scène, comment simplifier les dialogues, aller à l'essentiel, et puis trouver des répliques un peu plus drôles. Hein. Quentin, on a mis combien de temps à faire ça ?
En tout, on y a passé 3 mois à faire la réécriture complète du scénario, en essayant d'être le plus fidèle possible à l'essence de ce qu'il y avait dedans, et en faisant en particulier, alors on s'est séparé les tâches, Alex était vraiment sur la partie comédie pour ajouter des touches d'humour partout où il y en avait besoin. Pour ma part, j'étais plus sur la structure, donc comment est-ce qu'on fait pour gagner en cohérence, trouver davantage de cohérence, augmenter un petit peu la complexité de l'histoire, histoire qu'on ne sente pas trop venir les choses.
Donc si les vannes ne marchent pas, on envoie nos courriers à Alex.
Voilà, c'est ça. Et puis,
on se mettra le mail.
Vraiment, mais c'est des choses qui fonctionnent ensemble, parce qu'une fois que la structure est bien faite, il y a la comédie qui peut apparaître, et c'est vrai qu'il y a des fois, beaucoup de fois, où on s'est attaché à revenir à l'idée initiale. Il y a, je sais pas, c'est arrivé peut-être une dizaine de fois, on s'est dit mais en fait c'était déjà écrit, et simplement on a, comme disait Alex tout à l'heure, tiré le fil à chaque fois et simplement rajouté des éléments de structure que Patoche n'avait pas forcément au départ, qui sont là pour le coup très très codifiés effectivement. Et en faisant ce travail là on a fait émerger des choses qui existaient déjà, mais simplement en les magnifiant et puis en rajoutant la petite pointe d'humour dont Alex a le secret.
Alors moi, ce qui m'a marqué en découvrant le film, parce que j'ai eu la chance de voir une version voilà, juste avant la sortie, ce qui m'a marqué, c'est, j'en parlais avec Patrice, c'est que souvent dans le cinéma français, dans ces histoires-là, les positions d'autorité, les policiers, les juges, ils sont pas drôles. Ou alors s'ils sont drôles, c'est que c'est de la pure parodie. Et, comment vous arrivez à jauger au niveau des dialogues, de l'écriture, pour tous les comédiens, ce passage-là ? Parce qu'on est dans un genre qu'on connaît très bien en France, mais on n'a pas souvent cette audace-là, justement, scénaristique.
Ça vient beaucoup des enjeux, c'est-à-dire qu'on a décidé que les enjeux seraient réels, qu'on traiterait la mort, les crimes, tout ça, de manière sérieuse. C'est-à-dire que c'est les personnages prennent au sérieux ce qui se passe, et néanmoins, c'est leur quotidien. Et on a eu d'ailleurs, on a des vrais gendarmes hein, qu'on jouait dans le film et qui nous disent, ben oui, effectivement, quand on est confronté à ça, quand on le côtoie tous les jours, on a besoin aussi des fois de faire des vannes pour prendre ça moins au sérieux.
Et puis il y a une particularité aussi, c'est que le film a été écrit dans un premier temps, puis réécrit dans un second temps de la même façon, avec l'esprit où on écrit pour des acteurs et des actrices. Donc les rôles sont pensés pour les personnes qui vont les jouer. Si les personnes sont drôles, quand bien même ça va être un boucher, quand bien même ça va être un gendarme, quand bien même ça va être une procureure, on ne peut pas non plus oublier la personne pour qui on écrit, qui a sa propre âme, et c'est aussi ce qui fait cette particularité. On s'inscrit dans une tradition qui écrit d'abord pour le jeu, quoi.
Alors, du coup, question... moi, je ne l'ai pas vu, le film, mais... Je ne l'ai pas vu.
Jaloux.
Mais je vais faire, voilà, comme n'importe quel journaliste qui ne l'a pas vu, je vais le critiquer, hein, bien sûr, forcément, c'est obligé. Vous dites, on l'écrit aussi en fonction de la personne qui va éventuellement jouer. C'est que vous aviez déjà une idée, c'était déjà réglé, le casting était fait avant.
Oui, tout à fait. Oui, le casting, au fur et à mesure que j'ai écrit, je savais. Enfin, alors. Si je dois raconter une anecdote, effectivement. Ah bah oui. C'est vrai que Paula, qui est ici à notre table, à la base n'était pas du tout dans le scénario. Son rôle n'existait pas. Et il se trouve que bah, nous, on se fréquente puisqu'on travaille ensemble à la Fabrique Opéra. Petite pub en passant. Pour la Fabrique Opéra. Et c'était au moment du confinement.
Oui,
la veille du confinement, on était en train de ranger les costumes à l'époque de Traviata. Et je lui dis, on est en train vraiment de tout ranger parce qu'on savait qu'on n'allait pas jouer. Ouais. Et je lui dis, mais tu voudrais pas t'occuper des costumes de mon film ? Et elle me répond, elle me dit, ah, mais t'aurais pas un petit rôle comme pour moi ?
Même une petite figuration.
Même petite figuration, c'est ça. Mm. Et je dis, non, je suis désolé, j'ai rien. C'est les rôles de nana sont distribués. Et puis finalement, j'ai écrit une petite babiole, une petite scénette où il n'y a pas grand chose à la base dedans.
Il y avait peut-être 2 scènes.
Oui, il y avait peut-être 2 scènes. Et puis on a relu le scénario. Mm. Et alors là, dès qu'on l'a entendu parler, on s'est dit non, mais c'est pas possible, il faut qu'elle ait un rôle beaucoup plus important. Et donc on a réécrit tout son scénario, tout son rôle pour qu'elle ait. Et puis maintenant, la petite Paula, on la voit bien dans le film. Et elle est très bien.
Alors j'ai une autre question aussi, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de réécriture. Mais est-ce qu'au départ, et puis d'humour qui s'est fait au cours de la réécriture, est-ce qu'au départ, il y avait un aspect plutôt sombre qui s'est éclairci par l'apport de vos deux compères ou non ?
Non, alors à la base, moi je l'ai écrit de façon... J'ai écrit évidemment toute l'intrigue, mais je voulais dans un deuxième temps, de toute façon, que l'humour prenne sa place. C'est-à-dire que dans l'écriture de base, il y avait un peu d'humour, mais pas non plus comme on en a mis après, quoi. Et c'est vrai que c'est Alex qui a beaucoup contribué, parce que c'est un personnage très drôle à la ville aussi.
J'ai mis beaucoup de mon humour, mais c'est sûr que la comédie était là de base déjà dans ce qu'avait écrit Patoche. Et puis il y a parfois des petites choses où s'il y a des choses qui nous paraissaient un peu incohérentes, et ben en fait des fois si les personnages aussi sont d'accord avec le fait que ce soit incohérent, bah l'humour vient de là, vient de ce petit décalage. Et en tant que public, je pense, quand on voit ça dans une œuvre, on se dit plus c'est incohérent, on se dit « Ah, ok, eux aussi, ils sont d'accord avec telle incohérence, donc j'y crois. » Et voilà, c'est un des aspects de l'humour aussi.
C'est vrai que vous disiez tout à l'heure qu'il y a la possibilité d'avoir à manger en tant que public sur un film comme ça. Et effectivement, en termes d'humour, on a cherché à avoir une grande variété de types d'humour. Donc il y a des choses qui apparaissent dès les premières étapes de l'écriture, des choses qui sont apparues à la réécriture, des choses qui sont apparues au moment de filmer aussi. Et également, ça ce sera la petite découverte pour la plupart de ceux qui sont ici et qui n'ont pas encore vu le film, au montage il y a encore des choses qui sont apparues en fait. Et donc il y a des scènes qui à la base n'étaient pas prévues pour être drôles et qui sont devenues extrêmement drôles par le montage.
D'ailleurs je suis surpris que tu sois crédité comme comédien parce qu'ils t'ont enlevé au montage d'ailleurs. Je sais pas si t'es au courant, mais ils ont supprimé ton rôle au montage. Mais
Oui bah alors, malheureusement...
C'est pas gentil de faire ça. Bon.
Voilà.
Alors je plaisante. Évidemment, bah, là, je suis en train de faire des vannes parce que c'est vrai que pour la plupart vous savez ce qu'il en est, mais vous avez pas forcément vu le film en entier, c'est pour ça qu'on fait ce running gag. D'ailleurs running gag qui est un des ressorts de l'humour qu'on trouve dans votre film, qui se perd un peu, je trouve, ces derniers temps, on n'ose pas, parce que c'est vraiment un humour de répétition et d'empathie, je dirais. Et j'étais très content de voir aussi ce type d'humour pratiqué. Paula, oui, justement, sur cet aspect-là.
Chaque jour sur le tournage, on réajustait chaque scène. C'est-à-dire qu'on arrivait avec notre scénario et très souvent, on coupait des répliques, on changeait des mots. Et en fait, c'est vraiment aussi... le moment présent, quand on échange vraiment et que là, les choses prenaient sens ou pas et qu'on réadaptait à chaque fois. Ouais.
Alors on va tendre le micro évidemment à tous les comédiens autour de la table parce qu'il y en a beaucoup à qui on n'a pas encore tendu la parole et je sens une forme de tension au bout de la table évidemment. On rigole totalement. Et on va dire bonjour à Virgile. Bonjour Virgile.
Bonjour.
Alors Virgile, il joue un professeur, un grand spécialiste d'histoire. Et là, Thomas, bon, on est bien placé parce que nous, on a fait des études d'histoire. C'était tout à fait crédible de te voir en professeur d'histoire.
Merci.
Est-ce qu'il a des pantalons en velours ?
Oui, c'est vrai, ça. Et pantalon en velours ou pas pour spécialiste en histoire, je ne me rappelle plus s'il est habillé en velours.
Non. Le haut était en velours, mais le bas, c'était du coton. Un peu à carreaux, voilà, gris carreaux, mais voilà. Mais voilà. Et je crois qu'on le voit pas le pantalon de toute façon aussi, peut-être un tout petit peu, mais voilà.
Bon, il y a une figure qui est respectée quand même, le velours qui est associé au prof d'histoire, et ça c'est important, c'est aussi du costume. Exactement. Alors comment on s'empare de ce sujet-là également, et de, je dirais, en tant que comédien, on rentre dans ce script-là, Virgile, et on y trouve une forme de latitude dans un sens, parce que c'est vrai qu'il y a l'histoire, il y a cet arrière-plan, on sait qu'il y a un cadre de la comédie policière, comment on arrive à rentrer justement dans ce rôle-là?
Alors, ce qui était difficile pour moi, enfin difficile en même temps, ça a pu m'aider, c'est-à-dire qu'on a tourné des scènes avant, voilà, et avant de jouer tourner les scènes avec Alexis, où je l'aide dans son enquête, on lui apporte des faits, des références historiques, voilà, et du coup ces scènes qu'on a tourné en amont m'ont aidé un petit peu à créer le personnage. Voilà. Après, j'ai mis beaucoup de moi. Voilà, moi, je suis fan d'histoire également. J'ai failli faire des études d'histoire. Bon, je suis devenu chanteur, mais...
c'est une meilleure carrière.
Voilà. Mais voilà. Et donc, après, c'est vrai que les costumes, le lieu où on a tourné a beaucoup aidé. Quentin, qui a fait aussi un peu direction d'acteur, même pas mal de direction d'acteur, m'a beaucoup aidé parce que moi je suis pas comédien de formation, hein, voilà, je suis chanteur. Bon, ça, quand on chante, on connaît la scène, voilà, mais il y a plein d'outils, voilà. Alex aussi m'a beaucoup aidé, donc ça c'était chouette d'avoir ce soutien. Et puis après, voilà, le texte m'a été quand même très inspirant. C'est vrai qu'au départ, moi, quand j'ai lu le premier jet du scénario, je voyais quelque chose de qui se rapprochait un peu des textes de Simenon, voilà, l'ambiance Maigret.
Oui,
je
oui,
voyais même c'est carrément une adaptation d'époque, mais après en termes de budget, ça aurait tout éclaté. Donc, et c'est vrai que le fait d'actualiser. Que l'histoire se passe à l'heure actuelle, il fallait effectivement mettre de l'humour, sinon ça aurait été comme beaucoup de séries ou de films français où tout est super sérieux, il n'y a aucune distance. Et du coup là, les gars, Quentin et Alex, ont réussi à donner cette distance et cet humour qui était nécessaire.
Tu additionnes, tu multiplies les petits câlins anonymes et les cartouches. Tout en douceur, mélodie. Si tu savais ce qu'il faut dire pour la faire mouiller la machine, je m'allume et je passe sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipstick. Caresse ton personnel pour éviter que les mains ne causent. Laisse pas tomber comme ça les filles, ça ferait ton peine à rose. Pourquoi veut-il, grand Manitou, que le magicien dose? Je m'allume et je passe sur Manuel. Sur tes lèvres comme un lipsus. Les porteurs n'iront pas plus loin, pas plus loin. Dr. Livingston le sait bien, lui le sait bien. Malédiction. Nous ne quitterons pas cette île de rêve sans jeter un dernier regard. À colorier chez soi ou à consumer sur place. Je m'allume et je passe. Sur Manuel, sur tes lèvres comme un lipsus. Les porteurs n'iront pas plus loin, pas plus loin. Dr. Livingston le sait bien.
Justement, moi, en voyant le film, le duo que tu as donc avec Alex, donc le personnage de policier qui vient voir ce spécialiste en histoire pour l'aider dans son enquête, ça m'a fait penser à une référence justement très codifiée, très sérieuse, qui est la 9e porte et qui cache oui, derrière cette enveloppe très sérieuse quelque chose d'assez enfantin qui est la chasse au trésor. Alors là, je voulais vous tendre le micro à tous ceux qui veulent réagir là-dessus parce que il y a quelque chose de réenchanté en fait des territoires qu'on connaît très bien. Alors évidemment, nous on est le nez dedans parce qu'on y habite, mais même quand on habite à l'autre bout de la France, on peut parfaitement voir la malédiction des Dunois et se dire mais il y a peut-être des trésors sous nos pieds. Et il y a quelque chose de très, au bon sens du terme, de très gamin là-dedans à écrire là-dessus. Et on retrouve ce plaisir-là avec vos personnages. Alors je sais pas comment vous voulez tous réagir, Virgile, là, sur cette.
Tu faisais référence à la 9e porte, effectivement. Oui. C'est vrai que j'ai pensé, alors peut-être pas consciemment, mais inconsciemment, j'ai pensé à cette scène où Johnny Depp va voir le professeur.
Bah oui, exactement, voilà. Oui, parce qu'on la voit souvent et c'est tout de suite on a cette référence.
Mieux que le professeur.
Cette galère de spoiler.
Je spoil rien.
Ne tente pas.
Mais voilà. Et sinon, oui, c'est vrai qu'il y avait, comme je disais, ce lieu, cette maison que vous avez trouvée à Beaugency, qui est une très vieille maison, un intérieur incroyable. Ça, c'était une chance. Et voilà. Après, je peux laisser la parole à mes collègues.
Oui, Quentin.
Ça donne envie aussi de rendre hommage au désir de Patoche au départ, qui était très fort, de se reconnecter dans toute une tradition du cinéma français avec des références, notamment à César et Rosalie. Qui a été tourné à Beaugency, et donc voilà, il y a une petite référence que les gens attraperont ou pas au passage. Et c'est vrai qu'au départ, moi je suis pas très sensible à ce type de référence là, a priori. Et en fait, a posteriori, maintenant quand je me balade dans Beaugency, il y a comme une saveur de cinéma qui est apparue. Ça a réenchanté le lieu et je trouve ça assez extraordinaire. Et ça fait vraiment plaisir en fait de redécouvrir les paysages dans lesquels on a l'habitude de passer parce qu'on y habite. Moi en l'occurrence, j'habite à Ligny-le-Ribault à côté de Beaugency. Et c'est un endroit dans lequel je suis allé pendant toute mon enfance, donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et c'est devenu un peu extraordinaire, donc merci Patoche pour ça.
Oui, non, mais après, il y a quelque chose de fondamental avec toute écriture artistique et en priorité pour le cinéma. Et c'est très bien pour ça que le film soit produit en région et avec cette influence-là, je dirais, cette liberté. Parce qu'il y a l'idée, évidemment, de profiter d'un patrimoine régional, mais de ne pas s'y laisser en être tributaire ou en être dépendant. Il n'y a pas le côté aliénant du patrimoine régional. On doit absolument aller dans tel endroit. C'est le plaisir qui mène cette enquête-là, au final.
Mais complètement. Complètement, effectivement. Et quand j'ai écrit le scénario, j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans Beaugency ? Il faut qu'on a, où faut-il aller dans Beaugency pour avoir les monuments principaux ou les lieux les plus insolites ? Et notamment, on a tourné dans la glacière. La glacière, qui est ce lieu assez incroyable dans le film,
oui.
et que peu de gens connaissent, et qui vont, je ne sais même pas s'ils vont le reconnaître finalement, parce qu'on a tellement relooké, redécoré pour les besoins du film.
Sachant que moi, une glacière, je pense à un truc en plastique, donc sur le papier.
Ah oui, à l'époque.
Là, vous m'avez surpris là.
À l'époque, une glacière, ça s'appelait glacière parce qu'on y entreposait de la glace.
Oui, il y a une miniaturisation depuis.
C'est ça.
Alors, on va continuer évidemment, parce qu'on va tendre le micro à absolument tout le monde, parce que c'est important, et on aimerait bien avoir 4 heures devant nous pour vous écouter, parce que c'est vrai nos auditeurs vont découvrir le film, il y a énormément de choses, on a envie d'en savoir plus. On voudrait tendre également le micro à Victor, parce que Victor, c'est quelque chose de très important dans votre casting, c'est que Victor Leroy est débouché, voilà. Bonjour. Alors,
exactement, bonjour. Voilà.
Si
tu permets, je vais expliquer pourquoi Victor est dans le film. C'est oui. Parce que...
Il avait des costumes, c'est pour ça.
Non, c'est parce que je voulais aussi, dans le scénario, oui. Incorporer des gens qui vraiment font leur propre métier.
C'est ça.
Voilà, c'est pour ça. Et Victor, il est boucher. Il est aussi comédien, parce qu'enfin, à ses heures perdues, parce qu'on avait déjà eu l'occasion de partager une scène ensemble. Donc je savais qu'il avait été capable de jouer un rôle. Et donc j'ai voulu investir des commerçants dans le scénario. Ils ont une petite importance dans le scénario. Je voulais investir des commerçants qui joueraient leur propre rôle dans le film. Voilà.
Et maintenant, ça, c'est très important. Alors, Victor, comment tu peux nous raconter cette expérience-là ? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un rôle qui est pas qui est un vrai rôle, quoi. C'est pas juste de la figuration.
Bah oui, j'espère quand même. Hein. J'ai pas vu tout le film encore, hein, mais
voilà.
donc, comme disait Patoche, justement, moi j'ai voilà une expérience de théâtre avec lui. Ça, c'était exceptionnel aussi. Donc du coup, c'est pour ça que je suis reparti dans cette aventure. Et puis quelle aventure. Enfin moi je suis boucher, hein. Je suis pas comédien. Donc du coup, alors le fait de tourner un film, c'est différent du théâtre. Parce que le film, on a beaucoup de prises, on peut faire ce qu'on veut, on peut déconner, on peut machin, mais j'ai vécu des trucs formidables. J'ai appris à me battre pour de faux, à prendre des coups, voilà. Ça, c'était assez drôle de se faire maquiller comme ça le matin par Chloé, notre maquilleuse, c'était extra. Après, de voilà, rencontrer, et puis en fait, tous les jours de tournage, bon, moi, j'étais pas beaucoup par rapport à mes amis comédiens ici, mais je retrouvais une famille, en fait, parce que c'était ça qui était bien avec toute l'équipe. On crée des liens et puis même peut-être qu'on se reverra peut-être pas après, mais au moins on a profité de l'instant présent et ça c'est important.
Salut les jeunes.
Salut le patron.
Bon alors, comment ça s'est passé à Beaugency ?
Eh ben pas si mal, alors on a trouvé un agenda avec un rendez-vous le soir du crime avec écrit Dunois. Et on a ça aussi.
Qu'est-ce que ça vous raconte ? Qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est quoi ça ?
C'était où ?
C'était sur un pieu planté dans le cœur de la victime.
Ah mais c'est dégueulasse !
Ouais, on attend de voir s'il y a des empreintes.
Au bout du monde. Ils sont tous chauds. Qui on veut?
Et vous inquiétez pas, patron, vous l'aurez, votre retraite anticipée.
Ça va, les gars? Ouais, bah tiens, puisque t'es si content ce matin. File donc un coup de main, Apollo. Qu'est-ce qu'il a?
Il y a un froc sur le dos. Tiens, si tu regardes ça, à quoi tu penses comme ça, sans réfléchir?
Bah, je sais pas, un blason.
Bingo. Le blason de...
Je sais pas.
Jean de Dunois. Et la musique, c'est le Carillon de Vendôme. Et le triangle, c'est un triangle. Ça, j'ai rien trouvé de plus. Et dans l'agenda, j'ai trouvé, écrit dans un coin, Eusebius. Alors moi, ça me fait penser à Zob, mais je suis pas sûr que ce soit une piste à suivre.
Et dis donc, rappelle-moi, t'es humoriste ou gendarme?
Les deux, mon capitaine.
Mais pourquoi tu vas pas voir le fort?
Quel fort? Il y a des forts dans la région?
Mais non, le fort! Le maître de conférence à la fac d'Orléans. Il est connu dans le monde entier.
Ah oui, dans le monde entier, carrément. Le mec, il est aussi connu que le professeur Tournesol.
Je vais regarder si on n'a pas son numéro dans nos fichiers.
Non mais attendez, attendez, j'ai mieux. Ma sœur, elle bosse à la fac. Je vais l'appeler.
Eh bah heureusement qu'il y a le réseau des commères du Loret pour faire gagner du temps à la gendarmerie.
Nous sommes pour ceux qui font des biopics, mais qui ne nous ennuient pas. Nous sommes pour ceux qui font peur aux enfants. Nous sommes pour ceux qui meurent correctement, y compris dans Batman. Et nous aimons les super-héros en costume moulant. Nous sommes enfin pour ceux qui font du bon cinéma. Graffiti Cinéma.
On est toujours à la taverne, vous écoutez Graffiti Cinéma, on est avec toute l'équipe quasiment de comédiens, une grande partie du casting et Patrice Blanchard pour La Malédiction des Dunois. Et dans cette deuxième partie, on voulait vous parler, axer un peu plus sur le plaisir de l'écrit et de la comédie, le plaisir de la comédie, on l'a acté dans la première partie. Mais moi je voulais vraiment faire une partie, parler de références visuelles et surtout prendre plaisir à faire un très bon film, pas seulement pour l'écrit et pour la comédie. Et il y a énormément de références qui me plaisent et justement je voulais en parler Alex et Quentin en face de moi. Vous êtes tous les deux dans un plan qui est assez marquant pour moi parce que on est au lycée François Villon, on est à Beaugency et vous jouez tous les deux dans un plan séquence. Absolument délirant parce que pour nos auditeurs qui sont pas forcément de Beaugency ou qui le découvrent, c'est un lycée qui est très très vaste quoi. Il a vraiment beaucoup d'espace. Il y a un travelling arrière avec vous deux qui dure 3-4 minutes, qui est assez hallucinant, qui est très très dense, et j'imagine à quel point ça a dû être galère à tourner. Alors je voulais en parler avec vous deux, et puis évidemment on en parlera avec d'autres plans, avec le reste du casting, mais pour moi c'était la marque qu'on ne vous contentait pas seulement de l'écrit et de la direction d'acteur, mais qu'il y a aussi un vrai plaisir à regarder votre film tout simplement.
Ouais, en fait, on a la chance d'avoir travaillé avec une équipe géniale, hein. Ce film c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis au niveau de l'équipe technique, Valentin, Victor, Bastien, Quentin, tout le monde avait vraiment envie aussi de repousser les limites, de se challenger, de s'amuser, de tester des choses. Alors des procédés qu'on a pu voir dans des films, souvent qui avaient plus de budget. Et là, c'était l'occasion de tester. Donc effectivement, il y a cette scène où on avance dans le couloir, en travelling, et puis les gars ils sont en train de reculer. Alors il y en a un qui a la caméra, un qui tient le gars qui a la caméra pour prévenir des obstacles derrière, la perche, alors on l'a fait plusieurs fois bien sûr parce qu'à un moment ça cogne ici et là, mais il y a eu vraiment ce soin à chaque fois dans chaque plan de tout le monde de voir comment on peut améliorer, comment on peut faire le maximum au niveau des décors, au niveau du plan, au niveau des lumières, au niveau de tout, et c'était un vrai plaisir pour nous aussi de travailler avec des gens passionnés.
Voilà. Alors Quentin, est-ce qu'il y a eu un fou rire pendant ce fameux plan séquence justement de 5 minutes? Est-ce qu'il y a eu un fou rire? Est-ce qu'il y a eu un imprévu pendant ce plan qu'on aura le plaisir de découvrir?
Je sais pas si on peut parler d'un fou rire, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a eu, je crois, 14 prises, sachant que c'est une scène qui dure 4-5 minutes selon la vitesse à laquelle on dit notre texte. Ouais, c'était assez long, c'était intéressant, c'était un challenge technique parce que au niveau du son, on a travaillé différemment d'habitude. Plutôt qu'à la perche, on était avec du micro cravate. Donc en termes de matériel, encore une fois, mes hommages à VB Presta, grâce à qui on avait tout ça.
Oui, c'est vrai qu'on peut en profiter pour les saluer, hein, parce que j'ai eu l'occasion de voir le boulot qui est fait. Patrice, on peut le dire, hein, c'est plus de 1000 heures de travail en post-prod pour le film.
Complètement. Et à l'heure où on parle, où nous parlons, ils sont encore dessus.
Oui, alors donc ça fera 1003 alors.
Et en plus de ça, il y avait un challenge au niveau de la mise en scène. Moi, c'est mon métier de base, je suis metteur en scène, et là pour cette scène là c'était un vrai challenge à la fois de s'occuper de la mise en scène et en même temps de jouer dans un plan séquence de 5 minutes. Et c'était vraiment intéressant de se retrouver avec une trentaine d'élèves. On a eu un petit partenariat avec le lycée François Villon, c'est la classe de théâtre qui était avec nous. Et donc ça a été très chouette de pouvoir leur proposer de jouer vraiment et d'avoir chacun, c'est pas grand chose, mais c'est 15 secondes pour chaque élève où ils apparaissent à l'écran avec une petite indication, une petite chose à faire. Et comment est-ce qu'on fait pour de prise en prise s'améliorer? Ça, c'était pas évident. Parce que sur la première prise, ils font ce qu'on leur demande, et puis ensuite, ils oublient, et puis ensuite, on donne des nouvelles indications, etc. Donc, ça a été vraiment intéressant, et au final, on est arrivé sur une des prises finales qui je crois, fonctionne vachement bien. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. Sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation. But an enclosed system. Natural world gone missing. Plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change. We sure can't stay the same. Cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption. Imagine from a mind of isolation, revalue all that we've been given. God don't work on commission. We make up one big breathing chain, we're quite the same. Hey, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change and turn the ship another way. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah. We'll find our place in this living chain. We're quite the same. Yeah, life's a foolish, foolish game. Life's a foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.
Alors, on va tendre le micro, je voudrais essayer, parce que je pense que dans l'ensemble du casting qui est en face de moi a été servi dans des plans vraiment magnifiques. Paulin, d'ailleurs, on peut en parler, parce que les plans de la fin du film, je vais parler plus fort.
J'en profite juste avant que j'oublie, parce qu'on a cité pas mal de gens de l'équipe technique, et ça vaut le coup aussi de citer Chloé, notre maquilleuse, Nolwenn, Eden. Bon, et puis après, vous lirez tous les noms à la fin du film sur le générique.
Alors je me penche vers Paula parce que c'est vrai qu'on a une table très très longue, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on est sensible à ça? Parce que notamment je pense au plan de la scène des scènes de fin dans laquelle tu es, quand on est dans un décor historique comme celui-ci, est-ce qu'on ressent cette esthétique-là au-delà du jeu, de la comédie?
Dans la glacière?
Ou par exemple, dans la fameuse glacière.
Alors oui, ça a été une journée très difficile pour tout le monde, hein, parce que dans la glacière il fait froid.
Ça. Et ils ne sont pas trompés sur la fiche de poste.
Oui, on a tourné 2 ou 3 jours, je ne sais plus. Enfin, moins 2 jours, je crois. Et d'ailleurs, avec Victor. Et pour la petite anecdote, je crois que je lui ai cassé une côte.
C'est vrai?
Exactement, ouais.
c'est génial.
Alors, elle m'a cassé une côte, ouais, bon, là, ça pète un peu, mais non. Je suis mal retombé. En plus, moi, j'avais la vue. Bon, je vais pas tout dire, mais je suis mal retombé sur un faux matelas, enfin un matelas qui me retenait, voilà. Et je me suis pété une côte, voilà. J'ai mal respiré pendant 15 jours. C'était sympa ce film.
Je pensais pas arriver là avec cette question là, moi. Je suis un peu mal. Alors ceci dit, c'est vrai qu'on n'imagine pas et ça se voit à l'écran, mais ça en dit long sur le travail de repérage qui est effectué et justement votre implication de toute façon.
Ah oui, bien sûr. Ouais, alors le repérage, c'est pas moi qui l'ai fait, mais mais en tout cas, oui, enfin de tourner. En plus, on est dans le noir. Il y avait de la poussière, il faisait froid. Oui, c'était un challenge. Ouais. Je sais pas, on a tourné peut-être 12 heures, non ? Je sais plus combien de temps on est resté dedans. Oui, c'était un sacré challenge. Ouais.
D'accord. Bah, on va retendre le micro à Patrice parce que c'est vrai que le repérage, on imagine à quel point c'est une galère. Le repérage.
En fait. Écoute, en plus, il fallait qu'on trouve. Comme on n'avait pas de budget, on pouvait pas louer des lieux. Donc il fallait qu'on trouve chez les copains, les copines, les connaissances, des endroits où tourner. Et notamment, ma maison a beaucoup servi. voilà, je ne dirais pas les scènes, mais bon, il y a des scènes où c'est chez moi. Voilà, ça a été tourné chez moi. Il faut remercier aussi la Fabrique Opéra. On en revient encore parce que c'est là qu'on a tourné toutes les scènes de gendarmerie. Mais on n'a pas fait que les scènes de gendarmerie. On a fait des scènes d'interrogatoire, la prison. Enfin, on a fait plein de choses comme ça. Tout ça dans ce même lieu qu'on a réussi à réaménager complètement. Et le résultat est assez...
Pour avoir assisté au tournage, c'est vrai que moi, j'ai vu les scènes de gendarmerie. D'ailleurs, Paula m'avait fait peur parce qu'elle est habillée en gendarme. Et ça, c'est pour la petite anecdote. Je crois que c'était une vraie gendarme. T'es vraiment à fond dans son rôle. Et c'est vrai que pour le coup, on le voit pas au montage. On n'imagine pas que c'est tourné exactement au même endroit. Donc en termes de décoration, en termes de décor, pardon, il y a énormément de boulot également à ce niveau-là.
C'est vrai. Et c'est vrai que la maison du professeur, elle est incroyable. On a eu de la chance aussi de trouver ces décors-là, quoi.
Oui, ouais,
tout à fait.
Et puis j'imagine à quel point ça aide et ça facilite le temps, ça fait gagner du temps pour entrer dans ces personnages, dans l'histoire et de très rapidement prendre le pouls en fait directement du film. Moi, j'avais une question en fait plus générale par rapport à tout ce qu'on évoque là sur les repérages, c'est qu'il y a un écueil avec ce type de comédie qu'on a pu voir, c'est le patrimoine, le cinéma patrimonial, c'est-à-dire mettre en avant une église, mettre en avant un passé, et souvent cet écueil-là, il impose en gros que l'histoire prenne le pas par rapport à notre scénario. Comment on échappe à ça en tant qu'acteur et en tant que dialoguiste, scénariste? Est-ce que c'était vraiment, je dirais, une figure imposée qu'il fallait éviter, quoi, ce cinéma patrimonial, c'est-à-dire mettre ça en toile de fond, tous ces magnifiques décors qu'on a, ces plans de drone magnifiques, mais qu'ils ne mènent pas l'histoire, mais en gros que l'histoire vraiment les habille. Alors les questions sont un peu vagues, mais je dirais que est-ce que c'est, tu pensais d'abord au repérage et comment à l'habiller au dialogue, comment ça se passait?
Comme je connais bien la ville de Beaugency, puisque j'y habite depuis longtemps, je connais forcément tous les endroits stratégiques. Et quand j'ai écrit mon scénario, effectivement, je me disais, bon, ben ça peut se passer à tel endroit. Il faudrait que je mette ce bâtiment en avant, qu'est-ce qui peut s'y passer dedans. Et tant que j'ai pu le faire, je l'ai fait. C'était le cas de la glacière, du clocher Saint-Firmin, de la place devant la place Jeanne d'Arc. Et puis il y a des endroits dans lesquels je voulais filmer. Et puis en fait, finalement, ben, on ne l'a pas fait parce que ça s'y prêtait pas. J'aurais bien voulu filmer la façade de la mairie. On avait écrit un truc, vous vous rappelez, devant la façade de la mairie, puis finalement, bah, on l'a pas fait, ça a été coupé. Enfin voilà, tu vois. Après, on adapte aussi en fonction du scénario, puis du vrai déroulé de l'action. Après, il y a des fois, on peut pas le faire. Enfin, pas non plus.
Quentin.
C'est vrai que ça s'est passé plutôt dans l'autre sens, en fait. L'idée, c'est que c'est plutôt les lieux qui ont été pris comme des arènes au moment soit de l'écriture, soit de la réécriture. Et il y a le travail de repérage qui a été fait par Valentin, par Victor, par Bastien, où en allant sur place, ils ont eu des idées supplémentaires et ils nous l'ont dit. Et donc on a pu réécrire aussi à ce moment-là. Donc il y a eu tout ce travail qui a été fait, et notamment à la basilique où il y a eu un travail très très fin de lumière, de préparation. Dans la Fabrique Opéra, c'est le travail de décor qui a été fait par Ludovic Meunier, qui a été aussi une source d'inspiration assez grande. Donc c'est vrai qu'il y a eu tout ce travail-là qui a été fait vraiment en complicité. Et c'est là où ça a été chouette de pouvoir faire une réécriture, c'est que ça permet vraiment de discuter avec l'équipe technique et d'avancer main dans la main pour avoir quelque chose qui soit le plus cohérent possible.
Alors ça en dit long, hein, vraiment du plaisir qu'on peut avoir à voir ce film tout simplement à tous les niveaux, parce qu'on voit le soin qui est apporté et bon, du repérage jusqu'à l'écriture, on perçoit vraiment tout le boulot à tous les étages qui a été fait vraiment pour assumer cette histoire et arriver à la mettre vraiment en scène. On pourrait parler des tonnes, des heures et des heures de toutes ces influences là. Il me reste quelques questions, Thomas, je sais pas si tu en avais qui t'était venu à l'esprit.
On en vient à notre rituel, la question rituelle. La question rituelle dont on a un petit peu abordé en off, mais la question qu'on appelle nous la question George Lucas, c'est l'idée que une fois que l'œuvre est terminée, soit le film, soit l'écriture du scénario, est-ce que c'est fini pour vous quand il sortira? Ou est-ce qu'on se dit, comme George Lucas en 77, 20 ans après, il se dit bon bah je vais revenir sur mon film, je vais alors pour plein de raisons, hein, lui il y a des raisons économiques aussi en même temps qui se mêlent là-dedans, mais est-ce que vous revenez sur le film en vous disant ça j'aurais pu mieux le faire, et du coup je retourne des scènes, j'y vais, on met un petit peu d'argent, on y va.
L'édition spéciale est prévue pour 2035.
Voilà. Ah voilà, ah bah voilà. Donc c'est déjà prévu, donc il y a un plan, ça c'est très bien, ça j'aime bien quand c'est prévu.
Non, je plaisante.
Non, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'on en arrivera là. Je pense pas, le film il est ce qu'il est, je pense pas qu'on retournera après. Ou alors faudrait vraiment qu'il ait une carrière internationale à ce moment-là. Peut-être qu'on remodifiera quelques petits trucs. Mais quand tu auras vu le film, peut-être que...
J'attends ça avec impatience pour le coup.
Ben voilà, peut-être que une fois que tu l'auras vu, à la fin, peut-être que tu te poseras des questions, je sais pas.
Bon, cela dit, tant que le film n'est pas sorti, on a eu cette démarche-là. Il y a quand même des séquences qui ont manqué un petit peu parce qu'on n'avait pas le temps.
Oui, mais ça, c'était avant qu'il sorte, on est d'accord.
C'est ça, avant qu'il sorte, il y a eu ce travail-là qui a été fait. Donc, il y a effectivement un jour de tournage entier qui a été rajouté.
Ben, au mois de juin, là, juste avant l'été, là, justement avec Paula qui est ici. Là.
Les fameuses reshoots.
Voilà, c'est ça. Donc des reshoots, on en a fait, ça, y a pas de souci.
Ouais, ouais.
Après, c'est vrai que dans l'esprit, la façon dont travaille Valentin, qui est un peu au poste de direction photo du film, on pourrait dire, il a dans sa manière de travailler l'idée qu'une fois qu'on s'arrête, on s'arrête.
D'accord.
Mais donc tant qu'on s'est pas arrêté, là, il peut se passer plein de choses.
Alors, bah, question après subsidiaire, qui a vraiment le fameux director's cut? Voilà, qui dit à la fin, bah, c'est fini, voilà, on arrête, ça sera ça. Notre film, ce sera celui-là.
Comment ça se passe? Moi, Valentin, voilà, puisqu'on a vraiment, on travaille main dans la main. Donc, moi, je suis régulièrement sur le film pour voir, toujours à bidouiller. Des fois, on enlève une demi-seconde. Des fois, c'est tout con. Ouais. Hein. Mais t'enlèves juste une demi-seconde et d'un seul coup, ça, hop, tu reprends un peu plus de rythme. Donc voilà, c'est vraiment de la. En parlant un peu vulgairement, c'est de la pine de mouche maintenant sur certains trucs. Des fois, c'est tu vois, c'est pas grand chose, mais c'est le petit truc qui fait que ça va prendre un peu plus de rythme. Et là, tout récemment, il y a encore deux jours, on a encore modifié toute une scène.
D'accord.
Qu'on trouvait qu'il manquait un peu de rythme. Et on l'a rebidouillé, on est allé chercher dans les rushs et on a rebidouillé la scène, quoi. Et maintenant, on est content. Voilà.
Et sinon, d'un point de vue technique, sur le tournage, on a vraiment pensé le travail de façon chorale. Donc il n'y a pas une personne qui décidait, donc ça pose des problèmes aussi, mais par contre ça présente l'avantage que c'est vraiment un tournage familial. Il y a vraiment de ça et c'est vrai que Patoche a eu...
Et ça c'était super sympa ça.
Cette intelligence du groupe de laisser à chacun sa place et la possibilité à chacun de se trouver. Et donc ça a été très très formateur pour tout le monde parce que mine de rien on est arrivé sur ce film là en ayant pour personne en fait une vraie connaissance de comment ça se passe sur un plateau de cinéma, à part... certains un petit peu, mais malgré tout sur les postes qu'on avait, il y avait forcément une découverte, même voilà, il y a Victor qui avait déjà tourné sur un film qui avait une idée de comment ça peut se passer sur un plateau de tournage, mais pas forcément dans ce type de budget là, on était quand même sur un budget très restreint, donc on a pu apprendre tous ensemble et ça, je crois que ça nous a beaucoup apporté. Ouais.
Alors j'en viens, le film n'est pas encore sorti, on est dans l'excitation là, c'est vraiment le dernier coup de... Le dernier coup de pied, hein, ça sort le 26 octobre 2022. Donc, est-ce que vous pensez à la suite du film? Alors, pas la suite en tant que telle, hein, mais je parle de conservation, de tous les rushs, de toutes ces choses-là, de se dire, bah voilà, on peut conserver ça, la suite après, est-ce qu'il y a des formats pour vendre le film en se disant, en dehors du cinéma, est-ce qu'on a des touches pour aller sur des éditions de DVD? Alors ça se fait de moins en moins évidemment le DVD, mais il y a cette idée-là et se dire, est-ce que je garde des choses pour le montrer, agrémenter le film en disant bah, comme ça se fait réellement, quoi, en disant des scènes en plus.
Oui, de toute façon, on va tout garder, ça c'est sûr.
Ouais.
Oui, je pense que Valentin va tout garder. On a encore le bêtisier à faire, de toute façon. Donc...
Voilà, ce genre de choses, pensez à ça aussi.
C'est possible. Oui, parce que là, à l'occasion de la sortie, on se réserve un petit bêtisier pour nous, là. Et puis je voulais quand même dire aussi une chose importante, on n'a pas encore parlé, je ne sais pas si ça va venir dans la discussion, c'était la musique. La musique qui a une part très très importante dans le film aussi, et grâce au talent aussi de Thibaut Villermé, voilà, ça, j'accroche encore, c'est incroyable, c'est affreux ça.
qui nous a composé une musique sur mesure.
Alors c'est vrai qu'il y a, il y a des thèmes, moi ça me faisait quasiment penser du Lalo Schifrin dans le côté vraiment 60s, 70s, et ça apporte vraiment beaucoup d'humour, notamment la scène d'ouverture, on voit le personnage d'Alex débarquer sur la scène de crime, la bande son profite tout à fait du gag, et on sent vraiment que là vous avez joué sur la bande son, que c'est pas juste illustratif quoi. Ouais.
Et alors ce qui est important de signaler, c'est que malgré nos tout petits moyens, on a quand même eu la chance d'avoir un orchestre en live. C'est un véritable orchestre, c'est l'orchestre de l'Inattendu, dirigé par notre ami Clément Joubert, qui est à la direction. Et on a enregistré avec 31 musiciens, ce qui est quand même assez exceptionnel pour un film qui n'a pas de budget, quoi. Voilà, donc c'était une super belle expérience, et tous les musiciens ont pris leur pied aussi à enregistrer cette bande orchestre.
Bah, les acteurs ne sont pas payés.
Voilà. Il a toujours le mot pour... Okay.
Ça, on va le garder au montage, ça. Bah, en tout cas, nous, vraiment, le temps passe vite en votre compagnie, et c'est vrai qu'on aimera bien, en tout cas, y revenir pour vraiment teaser la sortie du film. Donc, on rappelle une dernière fois, le 26 octobre 2022, il y a des séances une semaine à Beaugency et au cinéma Les Carmes, à Orléans. Et puis après, bah, on va vous souhaiter que la mayonnaise prenne pour prendre des séances supplémentaires. Hein. Ça se passe comme ça, Patrice.
Oui,
la première semaine.
Voilà, c'est ça. Et puis, dès que le film est sorti, on attend des réponses de diffuseurs aussi. On attend, voilà. Tout ça, c'est en cours, mais on peut encore rien dire, puisqu'on est encore en fin de montage, encore tout ça.
Voilà, voilà, exactement. C'est vrai que, voilà, on l'a dit, c'est un film qui est plaisant à regarder, à écouter. Moi, je suis même très étonné avec les films que je vois, que vous arrivez à cette qualité-là, vraiment, et cette liberté-là, en le produisant en région, avec, comme vous le disiez, avec les moyens que vous avez. C'est assez hallucinant, quoi. Donc, vraiment, là, c'est pas juste parce que vous êtes en face, hein, c'est sans flagornerie. D'ailleurs, on vous entend à la radio, donc on vous prend à témoin. On est vraiment très, très content d'avoir eu ce coup de projecteur sur votre film. Et puis, évidemment, on relaiera dans les prochaines semaines, parce que là, quand vous entendez l'émission, on est fin septembre. Hein, ça peut paraître loin, la sortie, 3 semaines plus tard. Mais on continuera vraiment à relayer, parce qu'on veut vraiment que vous le voyez, tout simplement, et vous preniez le plaisir qu'on a eu à faire cette émission en votre compagnie.
Merci beaucoup, merci au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de ton accueil, de votre accueil, messieurs.
Alors, on n'était pas chez nous, mais on vous accueillit chez d'autres, mais...
Vous restez avec nous, vous ne bougez pas, tout de suite on vous propose un document justement de l'équipe du film qui vous présente la bande originale du film de Thubo Villermet. Ça dure à peu près 5 minutes et on se retrouve juste après pour un dernier tour de table avec l'équipe pour vous dire au revoir sur cette thématique de septembre qui nous a beaucoup intéressés et passionnés, autant que nous, on espère pour vous en tout cas, c'était un vrai plaisir.
C'est vrai que travailler sur une comédie en tant que compositeur, c'est toujours quelque chose de très intéressant, parce que c'est un style de film vraiment dans lequel on a une grande liberté artistique. La musique, elle prend vraiment une identité propre, elle devient un personnage. Et on peut influencer, je dirais, un peu sur le récit, sur la façon dont les scènes vont être perçues. Et il y a une sorte de curseur finalement entre premier degré, second degré, voire même trop au quatrième degré dans ce film, La Malédiction des Dunois, qui fait que la musique, en fait, elle a un vrai rôle et elle peut vraiment influencer ce comment on va percevoir les choses. Alors en fait, quand j'ai commencé à travailler sur cette BO, le premier enjeu, c'était vraiment de trouver le main theme, parce que c'est ce qu'allait donner l'identité du film. En fait, on cherche vraiment l'esprit du film, comment on va pouvoir mettre en musique toute cette histoire. J'étais parti avec en fait un motif, pam 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 pam, avec un accompagnement un peu de quinte qui fait un peu une influence médiévale en fait, qui illustre justement l'histoire des Dunois. Et à un moment, au bord de mer, j'ai eu cette idée d'un nouveau thème principal, vraiment. Pom, 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 pom. Avec en plus la possibilité de faire plein de déclinaisons, de l'adapter en orchestre. Et je suis rentré, j'ai mis ça un peu en forme, et j'ai fait écouter au réalisateur, il a dit « ça y est, on le tient, voilà ». Ça, c'est une belle scène de cinéma, c'est-à-dire que là, on est sur une séquence qui dure 3 minutes. C'est un peu une séquence rêvée en tant que compositeur sur laquelle on a envie de travailler, parce qu'on peut vraiment illustrer les images et on peut développer un morceau en lui-même qui peut avoir vraiment une certaine émotion et un certain impact. Et donc, je suis parti sur la citation du Carillon de Vendôme. Et après, j'ai vraiment cherché à accompagner la tension. La tension qu'il y a dans toute cette scène. En plus, c'est une scène clé, il y a un dénouement. Voilà, je vais pas en dire plus. Mais donc, il y avait une vraie tension. Donc, l'idée, c'était de garder durant toute la scène cette tension avec donc l'orchestre, mais aussi un peu le chronomètre, en fait, qui nous donne la sensation de courir après le temps. Et on alterne du coup entre des séquences de progression avec une tension importante et ce thème à chaque fois du Carillon de Vendôme qui revient en alternance. Je crois que ce film, c'est vraiment, pour le réalisateur, Patrice Blanchard, je crois que c'est vraiment un projet de cœur. Et c'est un projet dans lequel il y a beaucoup d'humains, finalement. Et le fait d'avoir pu enregistrer à la maison, c'est-à-dire à Orléans, d'avoir pu enregistrer avec un orchestre qui était composé, pour moi, fait de plein d'amis, de collègues, ça rajoutait une dimension qui était vraiment particulière. Et je suis vraiment très heureux qu'on ait pu enregistrer cette BO, cette musique de film, parce que c'est aussi un challenge technique d'enregistrer de la musique de film. Qu'on ait pu faire ça avec l'Orchestre Inattendu, dirigé par Clément Joubert, franchement, c'était un grand plaisir.
The Oscar goes to...
Alors, on teste quelque chose de nouveau dans l'émission. Une nouvelle rubrique pour se quitter, pour se dire au revoir. De temps en temps, on pourra faire ça. C'est, je mets la bande-son, un morceau en tout cas, musical, instrumental, et on a 2 minutes chrono pour créer un film à partir de cette bande musicale. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes
prêts. Pas vraiment.
Allez. On l'a déjà testé ça, hein, mais on va essayer. Allez, c'est parti, je mets une bande-son musicale. Alors, les idées vont venir.
Voilà. Une course-poursuite.
Une course-poursuite.
Ouais, les escaliers de secours à New York.
Très bien ça.
Ouais.
Ouais, on est bien dans cet endroit.
Donc on a le métro aérien. Un mec qui a un chapeau. Moi je pense que voilà, c'est un film avec Gene Hackman. Je veux bien Gene Hackman à mort.
Ah oui, d'accord.
Ah non, moi je voyais plus un truc genre braquage à l'italienne, tu vois, un petit petite voiture.
Mais avec Gene Hackman.
Du coup, il faut pas le faire maintenant le film, parce que Gene Hackman, c'est.
Ouais, on voit une vamp à lunettes qui sort d'une bijouterie avec un sac et une voiture qui l'attend et un policier en plan qui les suit.
Alors, c'est tourné récemment, évidemment, donc on est au courant, on le sait, donc on a besoin forcément, je dirais, d'une belle à sauver, d'une femme un peu moderne qui va sortir cette personne à des.
Jessica Chastain.
Moi, je pensais à Sandrine Kiberlain, moi. Si on tourne.
Le gars qui conduit, je trouve un rôle qui. Contre-emploi, je mettrais Pierre Ninet.
Pierre Ninet. Pas trop cher.
Voilà, parce qu'on n'a pas assez parlé de Pierre Ninet depuis l'année dernière. Donc du coup, j'en remets une petite couche.
Donc là, on a un polar avec Pierre Ninet, Sandrine Kiberlain.
C'est ça.
Moi, du coup, comme il l'a fait souvent, je pense que c'est Guillaume Canet qui va réaliser.
Ah oui.
Voilà. Est-ce qu'on le met dans une grande ville, ce petit polar?
Ouais,
on
ouais.
Roubaix. Donc on a un polar à Roubaix avec une bande son assez années 70 qui évoque
la Lalo Schifrin.
La Lalo Schifrin. Maintenant, on peut peut-être trouver un petit titre de braquage, braquage à Roubaix, braquage à la roubaisienne. C'est un peu galère.
Ah, c'est pas mal à la roubaisienne. Et la roubaisienne.
Ou la roubaisienne, oui, c'est ça.
Magnifique. Les 2 minutes sont passées. On a notre film de la semaine, La Roubaisienne, avec Pierre Ninet et Sandrine Kiberlin. Magnifique. Un très beau braquage réalisé par Guillaume Canet. Magnifique. Merci, les amis.
Merci, à bientôt. Au revoir.
On fait des collections.
Merci. Merci à vous et venez voir le film.
C'est un ordre, d'accord. Ok, merci beaucoup Thomas.
Bisous.
Et puis on se retrouve nous le mois prochain pour une autre thématique. On était très contents en tout cas de finir notre thématique des premières fois du cinéma et du 7e art.
On le rappelle une dernière fois, La Malédiction des Dunois est programmée le 25 octobre au cinéma Dunois de Beaugency en avant-première et à partir du 26 octobre en salle au cinéma Les Carmes. Allez-y nombreux, on vous y attendra. À salut à tous.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Pourquoi vous faites ça?